Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Le très grand plaisir d'avoir à nouveau dans les studios de Radio SBS Guillaume Tournière. Bonjour à vous.
Bonjour, ravi de vous retrouver.
Oui, on était là l'année dernière, je crois, à cette époque.
Oui, à l'occasion de Madame Butterfly.
Et ça a bien marché pour vous ?
Bah oui, ça a très très bien marché. Apparemment, j'ai même eu l'honneur d'être honoré du Green Room Award de l'État d'ici. Très très honoré d'être bien reçu dans le pays, toujours.
Et vous êtes revenu à nouveau en Australie et il y a eu ce passage à Sydney pour les pêcheurs de perles.
Oui, pendant la saison d'été, au mois de janvier-février. Nous avons donné la même production et donc on est en pleine répétition ici avec une nouvelle équipe. Évidemment, ça n'est pas le même orchestre. Le chœur est un peu différent parce qu'il y a des membres du chœur qui ont changé. Évidemment, tout le chœur à Sydney était de Sydney. Maintenant, nous avons des membres du chœur qui sont aussi de Melbourne. Et évidemment, la distribution est différente.
Non, les chanteurs sont les mêmes interprètes principaux.
Non, ils ont changé. Donc, sauf José Carbo, qui chante Zurga, et les autres sont. Nous avons Emma Matthews maintenant, qui joue le rôle de Leila. Nous avons un Russe qui s'appelle Dimitri Korchak, avec lequel j'ai déjà eu l'occasion de diriger le même opéra en Italie il y a 5 ans environ, qui est extraordinaire. Et Stephen Gallop, qui lui est d'ici, qui chante le rôle de Nourabad.
Et c'est vous qui avez eu l'honneur de choisir cette œuvre de Bizet pour la représenter en Australie ?
C'est un opéra que j'ai beaucoup, beaucoup dirigé et que j'adore. C'est l'Opera Conference cette année dans le pays, c'est-à-dire que c'est une coproduction entre les différentes. La production va partir, je crois, sauf erreur, à Perth dans quelques mois, puis je crois à Brisbane au mois de février l'année prochaine. Donc c'est une coproduction avec toutes les compagnies d'opéra d'Australie.
Alors pour des gens comme moi qui ne connaissent pas tellement l'opéra, Guillaume, expliquez-nous un petit peu cette histoire d'amour. C'est tragique aussi, n'est-ce pas?
Pour une fois, il y a personne qui meurt en scène. Pourrait imaginer que le baryton Zurga est puni à la fin pour sa jalousie, mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer parce que le rideau tombe et les deux tourtereaux vont partir heureux de se retrouver. Donc pour une fois, pas de tragédie sur scène. Il y a un troisième acte vraiment dramatique où c'est un triangle. Donc deux amis dans une première vie, on ne sait pas si c'est quelques mois, quelques années, sont tombés amoureux d'une même fille, donc c'est Leila, la soprano. Évidemment, c'est le ténor qui va gagner, comme toujours dans l'opéra de cette époque-là.
Et cette œuvre de Bizet a été présentée pour la première fois, j'imagine, en France, à Paris.
Voilà, alors elle a été... C'est une histoire très très importante, même clé dans l'histoire de l'opéra français. Parce que le jeune Bizet venait de remporter le prix de Rome. Il était très très jeune. C'était un enfant prodige. Il est rentré dans la classe de piano au conservatoire supérieur à Paris à l'âge de 9 ans. Même le chef du gouvernement à l'époque a changé la loi car il était interdit à des enfants de rentrer dans les classes professionnelles. Enfin, il a fini ses études à 11 ans. Ça paraît incroyable, mais c'était un pianiste extraordinaire qui n'a jamais voulu devenir pianiste. Donc à 18 ans, il a gagné le prix de Rome, il est parti à Rome. À 20 ans, il a fini son séjour à la Villa Médicis. Et le gouvernement, à l'époque, venait de donner une dotation exceptionnelle de 100 000 francs d'époque, donc qui était vraiment un montant extraordinaire, pour un nouveau théâtre qui était l'Académie Lyrique, et dans lequel on pourrait, une fois par année, commander un opéra à un tout jeune compositeur. Évidemment, le jeune Bizet, bien que très talentueux, c'était l'élève de Gounod, c'était l'élève de Halévy à l'époque, donc son nom commençait à courir dans les rues de Paris, mais impossible pour un jeune compositeur d'être invité pour écrire un opéra à l'opéra, ou même à l'opéra comique. Il y avait le théâtre des Italiens dans lequel brillait Donizetti et Rossini à l'époque. Mais donc avec cette dotation, on l'invite à écrire un nouvel opéra. Et il a eu à peine quelques mois, c'était un peu la tradition à l'époque, on faisait tout à la dernière minute, et il a eu quelques mois pour écrire cet opéra. Donc on a demandé à deux librettistes, c'était les stars de l'époque, c'est comme un peu ceux qui écrivent les séries télévisées aujourd'hui, c'était les stars de l'époque. Donc on a demandé à Cormon et Carré, qui étaient deux grands librettistes, d'écrire quelque chose. Ils ont sorti des tiroirs une vieille pièce qui se passait au Mexique. Et On ne sait pas très bien ce qu'est devenu ce livret parce qu'on l'a perdu. Finalement, cette histoire a fini, ça se passe assez lent. Et ça a été basé sur un livre qui racontait les histoires d'un voyageur et qui avait entendu parler de cette légende pendant les 2 mois pendant lesquels les pêcheurs vont chercher des perles. Et afin d'être protégés, parce qu'évidemment, les requins étaient là pour mordre les pauvres pêcheurs qui allaient chercher au fond de l'eau les perles. Et donc, on allait chercher dans le pays une fille très belle, très pure, qui se sacrifiait pour tout le monde, qui faisait vœu de chasteté et qui, pendant la pêche, priait. Et évidemment, ce fait divers qui est basé sur, évidemment, des traditions qui se répétaient et qui étaient bien existantes, qui a servi de propos à l'opéra. Cet opéra s'est finalement appelé Les Pêcheurs de Perles. Donc, du Mexique, on s'est déplacé complètement dans le sud-est de l'Asie. Et c'est le livret sur lequel a été basé l'opéra. Il s'appelle Les Pêcheurs de Perles parce que, en fait, une grande partie de l'opéra, le protagoniste, c'est le cœur, c'est le peuple, c'est les pêcheurs. Et il y a énormément de cœurs, comme toujours chez Bizet, comme dans Carmen d'ailleurs. Et de cœurs très spectaculaires, très dramatiques, très dansants, très vivants. Et la partition est absolument très colorée, vivante. Il y a des couleurs extraordinaires pour l'orchestre, c'est très très beau à jouer.
Et c'est une des œuvres de Bizet que le public apprécie le plus ?
Alors surtout, il y a une histoire vraiment viscérale et une connexion très très forte en Australie parce que le fameux duo des pêcheurs de perles entre quand les deux amis se retrouvent et se rappellent ce temps où ils étaient unis avant d'être déchirés à cause de la jalousie et quand ils avaient vu apparaître cette fille extraordinaire, il y a au fond du temple saint et où ils voient apparaître cette déesse, c'est un des hits de l'histoire de la musique. Pas seulement de cet opéra ou de Bizet, ou pas seulement de l'opéra romantique, mais enfin vraiment de toute l'histoire de la musique. Et ce duo avait été chanté par des soldats, même à Gallipoli à l'époque.
Des
soldats australiens
également
parce que l'opéra a fait le tour du monde après ouais. Il a été oublié complètement, il a été créé alors que le jeune Bizet qui n'avait que 24 ans quand il a écrit l'opéra a été créé, puis à l'époque les reprises étaient plutôt chiches et donc on a fait quelques reprises et il n'a jamais plus entendu son opéra de son vivant, donc il est mort en 67 très jeune et en 87, donc même 20 ans après, on a repris en province, en France et en italien, parce que c'était les chanteurs à disposition étaient italiens. Donc même pas dans la version originale, mais dans une version remaniée par un autre musicien qui s'appelait Guiraud. L'opéra a été repris et puis c'est devenu un top de l'époque. Et même en ce moment, le Met à New York vient de faire une production. J'étais au mois de novembre à Zurich pour écouter une production. L'opéra de Genève l'a monté. Il y avait une production à l'opéra comique l'année dernière. Enfin, c'est un opéra qui est absolument séduisant. Je crois que c'est depuis très longtemps en Australie, c'est un des titres préférés des Australiens.
Absolument. Donc, la tournée melbournienne, c'est au State Theatre, c'est au Arts Centre à partir du 7 mai prochain. Durer jusqu'au 26 mai. C'est 7 représentations, d'après ce que je comprends.
Voilà.
Et quel est l'encouragement que vous auriez pour les jeunes qui nous écoutent, pour les moins jeunes, de venir assister à cet opéra de Bizet?
Souvent, l'opéra, peut-être si on est un opéra lover, évidemment qu'on a toutes les clés pour comprendre, pour comprendre ce qui se passe. Si on ne connaît pas, le monde de l'opéra est artificiel, puisque je suis en train de vous parler, je ne chante pas, donc le monde de l'opéra est artificiel puisqu'on a pris pour concept de chanter à la place de parler, donc si ça peut paraître artificiel, je pense que la musique de Bizet est vraiment extraordinaire pour oublier cet artefact là parce que C'est la mélodique la plus séduisante à cause de ses mélodies. C'est une mélodie après l'autre. Et c'est pas du tout un nivellement par le bas, parce que ça pourrait l'être. Et quelquefois, des compositeurs ont cédé à cette facilité-là de dire, bon, je vais écrire quelque chose de facile à écouter. Mais ça, c'est de la musique d'une qualité extraordinaire. D'ailleurs, Tchaïkovski, quand il est allé écouter la première de Carmen à l'époque, a dit et écrit, je suis persuadé que cet opéra sera le numéro un dans le monde dans quelques années. Et il ne s'était pas trompé. Tous les musiciens qui étaient là présents se sont rendus compte de la beauté de cette musique. Et le très jeune compositeur qui, en hâte, avait écrit ça, a écrit une musique extraordinaire. Je pense que pour les gens qui ne connaissent pas l'opéra, un peu comme certains tube entre guillemets de Verdi ou de Puccini, c'est la musique la plus extraordinaire à écouter quand on ne connaît pas encore l'univers de l'opéra.
On va écouter un échantillon juste après cette interview. Quel est le prochain projet pour Guillaume Tournier?
Un des prochains projets est d'enregistrer une première au disque d'un opéra français. Alors c'est un opéra créé en 1830 à l'Opéra Comique. Tous les musiciens dont je fais partie ont appris dans leur cours d'histoire de la musique, ah tiens, cet opéra a été l'opéra le plus joué en France jusqu'après la Première Guerre mondiale. 2500 représentations rien qu'à Paris entre 1934 et la Première Guerre mondiale, qui s'appelle Le Chalet d'Adam. Le chalet, basé sur un roman de Goethe et qui avait été traduit, et Adam qui était le compositeur à la mode avant juste avant Bizet. Enfin, c'est la génération entre 1830 et 1850. Bizet apparaît juste après, et donc Adam a écrit une cinquantaine d'opéras, et l'opéra le plus connu de l'époque et pendant 3-4 générations a été Le Chalet, qui n'existe même pas dans des archives INA en France. Il y a quelques airs qui ont été joués en concert, mais jamais de production. Et donc on est en train de préparer ça avec des chanteurs pour enregistrer tout bientôt.
Vous parlez beaucoup de langues?
Quelques-unes. Quand on dirige l'opéra, on est bien obligé de connaître les langues. Sinon, on est très vite emprunté et on ne sait pas quoi faire avec les chanteurs devant des livrets en langue étrangère. Donc voilà. Et la musique est la langue la plus extraordinaire pour communiquer avec tout le monde. Donc tous les chefs sont obligés de parler quelques langues.
Avant de vous laisser partir, il y a une question que j'aimerais vous poser. On connaît le parcours de Guillaume Tournier, mais est-ce que quand vous aviez peut-être l'âge de 12 ans, est-ce que vous aviez le sentiment qu'un jour vous seriez chef d'orchestre?
Oui, même avant. Quand les garçons disent à l'école primaire, je voudrais être pompier, médecin, etc. Moi, j'écrivais déjà vraiment sans avoir aucune idée de quel était ce métier et de vraiment comment ça se passait, parce que personne n'est musicien dans ma famille, il n'y a personne dans le milieu du spectacle.
Même pas les parents.
Ni de lointaines connaissances. Je ne sais pas pourquoi j'écoutais un peu de la musique, parce que y avait quelques disques qui tournaient à la maison. Et je ne sais pas du tout pourquoi c'était ça. C'est une idée fixe et qui ne m'a jamais quitté, même quand j'avais 6 ans, 7 ans.
Guillaume Tournière, heureux de vous revoir dans les studios de Radio SBS et on espère vous revoir
ici
prochainement en Australie en 2017. Merci à vous.
Merci beaucoup. À très bientôt.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.